Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire, consacré, une fois n'est pas coutume, à la philosophie politique et tout particulièrement au libéralisme. Notre conception, notre regard unilatéral de la liberté telle qu'elle est proclamée en 1789 est uniquement associé à la philosophie des Lumières. Pourtant, tout au long du XVIIIe siècle, le concept de liberté n'est pas nouveau. Il naît, d'ailleurs, sous la monarchie et prend des formes multiples, complexes, diverses, et il est attaché à des personnalités qui ne sont pas seulement des philosophes, mais bien des acteurs de la vie politique et publique. Il existe surtout ce courant politique qui, puisant dans le passé l'expérience des autres hommes, se rattache aux vieilles libertés germaniques du haut Moyen-Âge. Ce courant étudie avec assiduité l'évolution de la liberté ou des libertés qui, au XVIIIe, n'est pas au sens propre une idée nouvelle. Alors, par ailleurs, notre vision tocquevillienne de l'histoire du XVIIIe nous fait penser qu'il a existé une continuité entre l'ancien régime, incarné par l'absolutisme, et la Révolution française centralisatrice et égalitaire. L'historien Jean-Christian Petit-Fils, que j'ai reçu à ce micro, dans sa biographie monumentale de Louis XVI, remet en cause cette théorie tocquevillienne de la continuité, une théorie qui met entre parenthèses toute la période de 1715 à 1789. Une période qui voit, je cite Jean-Christian Petit-Fils, la violence des turbulences centrifuges, la puissance de la réaction nobiliaire, la révolte égoïste et envieuse des communautés et des groupes. Alors, comment s'expriment dans les idées ces forces centrifuges? Quel sens ces nobles, ces bourgeois, ces penseurs donnent-ils au mot « liberté » au XVIIIe siècle? Quelles sont les racines de cette liberté? Et peut-on cantonner cette idée de liberté à la philosophie des Lumières? Surtout, et enfin, pouvait-on éviter, comme en Angleterre, la radicalisation de la Révolution française? C'est ce que je vous propose de voir avec mon invité Jacques de Saint-Victor. Jacques de Saint-Victor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des idées et critique littéraire au Figaro, maître de conférences à Paris 8, et vous venez de publier chez Perrin le livre « Les racines de la liberté, le débat français oublié 1689, évidemment la Révolution anglaise, 1789, la Révolution française ». Alors j'ai cité dans mon introduction à dessein Jean-Christian Petit-Fils, et c'est vous qui avait écrit d'ailleurs la critique de sa biographie de Louis XVI dans le Figaro. Le Figaro littéraire, c'était au mois d'avril 2005. Et on sent à la lecture de votre ouvrage, ça a été ma première impression, l'ombre de Jean-Christian Petit-Fils. Et d'ailleurs, pour boucler la boucle, vous le citez dans vos remerciements. Il y a un lien entre la thèse de Petit-Fils et votre ouvrage?
Il y a certainement beaucoup de liens, parce que l'ouvrage, la biographie de Louis XVI de Petit-Fils, est une biographie tout à fait passionnante et surtout très intéressante, en effet, parce que vous avez souligné, c'est-à-dire la distinction qu'il opère entre la thèse tocquevillienne et puis la vision qu'il a du XVIIIe siècle. Moi, je dirais plus précisément, ils ont tous les deux raison. Et d'ailleurs, Petit-Fils est certainement là-dessus assez proche de ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution en ce qui concerne toutes les structures administratives. Ça me paraît assez évident. La centralisation française, disons, dans les... on prend pas le terme au sens technique, mais il y a un mouvement de centralisation qui s'opère assez rapidement dans la monarchie française à partir... on pourrait même faire remonter ça dès Philippe le Bel. Et puis, il y a en revanche, dans le mouvement des idées, au XVIIe et au XVIIIe siècle, disons au XVIIe à partir de la fin du règne de Louis XIV, on voit très très bien qu'en revanche, il y a ce que vous avez appelé les forces centrifuges, enfin, c'est-à-dire un certain nombre de mouvements d'idées qui vont à l'encontre de cette tendance administrative à constituer l'État moderne, comme on a l'habitude de le dire. Alors moi, j'ai voulu étudier cette ébullition intellectuelle sur un aspect très particulier que vous avez bien cité, en effet. Et là-dessus, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec Petit-Fils, puisque lui, en revanche, ne voit cela que comme une réaction nobiliaire. Et je précise, elle existe évidemment, cette réaction nobiliaire, mais je crois que parfois, on confond une partie de cette réaction nobiliaire avec un autre type de courant, qui a été classé parfois à tort comme nobiliaire et qui, en revanche, est un courant beaucoup plus complexe. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans cette racine de la liberté, en montrant le lien qui peut exister entre des auteurs a priori totalement différents, comme par exemple entre Boulainvilliers et Mably, comme par exemple le rôle central que joue Montesquieu, qui est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. On ne peut pas le réduire, comme Althusser l'a fait, à un auteur réactionnaire, et on ne peut pas non plus n'en faire qu'un auteur moderne, style Voltaire par exemple, ou autre, parce que c'est un auteur beaucoup plus complexe et de ce fait beaucoup plus riche, peut-être.
Disons que notre conception de la liberté, en tous les cas telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est plus la conception du tiers-État et, comme nous allons le voir, la conception que développera plus tard Sieyès, qui va provoquer la radicalisation de la Révolution.
Oui, alors notre conception de la liberté, déjà, je pense que même encore aujourd'hui, personne n'a exactement la même vision de la liberté. Si vous voulez, ce qui est le grand débat contemporain, si on veut faire de l'histoire en partant de prémices contemporains, le grand débat contemporain aujourd'hui sur la question de la liberté, dans son aspect politique en tout cas, c'est la question de savoir, est-ce que la liberté donne immédiatement la notion de libéralisme, c'est-à-dire est-ce que la liberté part de cette conception que Hobbes, puis Locke surtout, établiront de la liberté comme indépendance, c'est-à-dire en partant de l'individu. La liberté, c'est d'abord et avant tout la liberté que j'ai moi en tant qu'individu, donc c'est la liberté indépendance, ce qui va donner la justification de toutes les doctrines en matière de droit et de marché. À partir du moment où le droit et le marché sont là, cette tendance pourrait considérer que la liberté est établie. Et puis, il y a un autre courant, peut-être plus ancien, et de ce fait parfois vu comme plus archaïque, qui considère que la liberté n'est possible que si on l'inscrit dans un cadre citoyen. On n'est pas uniquement un animal social, on est aussi un animal politique. C'est la thèse que développent tous les penseurs depuis Aristote jusqu'à Hannah Arendt, c'est-à-dire que on ne peut pas être simplement un individu isolé. On appartient à une cité et on a donc une véritable liberté que lorsqu'on s'inscrit dans ce cadre politique. Donc c'est une vision d'une liberté comme non-domination, et c'est une vision qui a donné naissance à un courant qui n'est pas le courant libéral, stricto sensu, mais alors là, on peut s'entendre, il y a de très amples controverses en la matière, mais qui est un courant qu'on va appeler républicaniste, selon le terme que les anglo-saxons lui ont donné, parce que c'est un courant très fort outre-Manche et outre-Atlantique, beaucoup moins fort chez nous, mais qu'on voit commencer à vouloir, se développer dans certaines parties du monde universitaire. Alors moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que ce courant-là, républicaniste, c'est un courant qui va animer une partie du débat d'Ancien Régime, mais ce que j'ai aussi voulu montrer, c'est que ce débat républicaniste s'épuise chez nous avec la Révolution française. Donc paradoxalement, au moment où va naître la République, mais là, c'est une autre notion, qui est une notion politique, cette fois, la République, alors que le courant républicaniste, c'est un courant philosophique.
Alors, vous dites, il s'épuise, mais j'irai même plus loin, il est oublié, Tocqueville n'en parle quasiment pas. Pourquoi est-il oublié ?
Non, il n'est pas complètement oublié, il n'est pas formulé, c'est-à-dire que il faut bien savoir que le courant dit républicaniste n'a vraiment été reconstitué qu'avec l'œuvre majeure de Pocock, dans son fameux livre « Le moment machiavélien », qui est un livre majestueux, mais qui, c'est ce que j'ai voulu justement souligner dans ce livre, avait étudié tous les autres pays, l'Italie, l'Angleterre et l'Amérique de 1787, et n'avait pas étudié la France. Il avait juste laissé une ou deux pistes, notamment sur Boulainvilliers. Et donc, moi, j'ai voulu essayer de voir si on pouvait compléter Pocock. C'est peut-être très ambitieux. En tout cas, c'est modestement ce que j'ai tenté de faire, en montrant l'intérêt de ce débat républicaniste dans l'Ancien Régime. Alors, oublier, non, parce que finalement, Tocqueville, d'une certaine façon, quand vous lisez des passages de la deuxième partie de la démocratie en Amérique, cette inquiétude qu'il a vis-à-vis notamment de la perte du sens civique dans les nations européennes, quand il évoque par exemple, c'est implicite, mais la France de Napoléon, cette France où finalement on ne s'intéresse plus qu'à sa jouissance privée, et lui soulignant le risque que ça peut avoir pour la liberté politique, mais y compris pour la liberté individuelle à terme, car si on ne se protège pas et si on ne participe pas d'une certaine façon à la vie de la cité, c'est pas seulement la liberté politique qu'on risque de perdre à terme, c'est aussi sa propre liberté individuelle. Eh bien, tout cet aspect-là de Tocqueville l'a fait classer par certains historiens des idées comme un humaniste civique, c'est-à-dire comme appartenant à ce courant républicaniste. Alors, bien entendu, là, c'est des querelles de mots. Et Tocqueville est évidemment un libéral, peu importe quel qu'il soit, républicaniste par républicaniste. Mais ça montre très bien qu'il y a cette sensibilité chez Tocqueville. Cette sensibilité aussi que l'on retrouve, bien que ça soit moins évident chez Constant, mais qu'on ne va pas en revanche retrouver chez tous les économistes du 19e siècle, par exemple les Malthus, les Ricardo, les Dunoyer, les Charles Comte, etc. Ce qui va bien montrer la différence qui existe quand même entre deux formes de vision du libéralisme à partir de la Révolution française.
Alors, venons-en aux origines, si je puis dire, aux racines de la liberté et donc à la chronologie. Vous commencez votre récit en 1689. D'un côté de la Manche, la Révolution anglaise chasse Jacques de Stuart, tandis qu'en France, le pouvoir de Louis XIV, lui, est à son zénith. Peut-on voir cependant, à l'époque, en France, les prémices ou l'expression de l'idée de liberté, et comment celle-ci s'exprime-t-elle dans les écrits ?
Oui, c'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut peut-être rappeler, pour bien comprendre le mouvement large des idées, c'est que la monarchie féodale était une monarchie où on avait plutôt, bon gré mal gré, respecter une certaine forme d'expression, si ce n'est des libertés, en tout cas des intérêts particuliers. Et puis, il va y avoir les guerres de religion, et en France, elles seront particulièrement fortes. Donc, le pouvoir royal va sortir renforcé de ces guerres de religion. Pourquoi ? Mais parce que on veut sortir de ce chaos. Et pour sortir du chaos, eh bien, il faut un pouvoir fort. C'est la thèse que développera Hobbes en Angleterre, c'est la thèse que développera Bodin en France. Donc, la monarchie, au fond, sort extrêmement renforcée, paradoxalement, des guerres de religion. Et donc, tout le XVIIe siècle est un siècle d'absolutisme, en Angleterre comme en France. En Angleterre avec l'histoire, en France avec Louis XIII plus Louis XIV. Et qu'est-ce qui se passe en Angleterre en 1688? Eh bien, c'était déjà le cas en 1640, mais ça devient vraiment plus marquant puisque plus durable en 1688. Ça s'effondre, cet absolutisme ne résiste pas à la pression des Whigs, à la pression des grands intérêts de la haute aristocratie, disons. Les Whigs, ce n'est pas un club de commerçants, ce sont des grands aristocrates qui décident, qui ont des intérêts certes terriens et aussi des intérêts financiers, et qui décident de renverser l'histoire. Bon, pour des raisons religieuses, mais on pourrait peut-être approfondir pour d'autres raisons aussi, et notamment des raisons très intéressées. Alors en France, paradoxalement, eh bien, on est dans une époque où triomphe l'absolutisme Louis XIV. Et il n'y a presque plus aucune forme d'opposition à Louis XIV. Les formes d'opposition religieuse sont quasiment sur le point de disparaître, le jansénisme. Les formes d'opposition parlementaire traditionnelle sont elles aussi, à partir de 1670, totalement détruites par Louis XIV lui-même. Tout ce qui a été ou a pu être une littérature dite libertine au sens du XVIIe, pas du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une littérature de remise en cause des idées établies, eh bien là aussi est absolument banni. Pardonnez-moi, mais l'académisme, la construction justement de toute la logique académique par Louis XIII et surtout par Louis XIV vise justement à éliminer toute forme de contestation, y compris dans la langue, y compris dans la littérature. Et donc on arrive à une époque, au moment même où justement éclate la Révolution anglaise, eh bien en France, c'est une époque de triomphe de l'absolutisme. Alors il reste, et c'est vraiment la seule poche quasiment de résistance, eh bien du fait même de son pouvoir social, il reste encore, peut-être, mais ce n'est pas encore très exprimé, eh bien, il reste une résistance dans les milieux de cour. Parce que, paradoxalement, ce sont les milieux des héritiers des vieux féodaux, et peut-être là encore, l'habitude ou la tradition de résistance au pouvoir royal est peut-être la plus exprimée, la plus forte, ou en tout cas la plus, j'aurais tendance à dire, la plus intéressée aussi. Alors, ceci dit, tous les courtisans ont peur de Louis XIV et il faut vraiment que ce soit des personnalités très marquées, comme j'imagine vous voulez me faire parler de Fénelon, qui ont cette audace de s'opposer au vieux roi.
Alors, quelle est précisément l'audace de Fénelon ? C'est ce que nous allons voir Jacques de Saint-Victor après cette première pause.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe. Vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jacques de Saint-Victor, auteur du livre « Les racines de la liberté » paru aux éditions Perrin. Alors, Jacques de Saint-Victor, vous avez évoqué juste avant cette pause l'opposition à cet absolutisme. qui s'est renforcé à la suite des guerres de religion et de la Fronde, et un des grands opposants à cet absolutisme, eh bien, c'est Fénelon.
Oui, Fénelon, qui a pourtant tout pour lui, puisque à l'époque, il a une très belle carrière de courtisan. Il va devenir, si on peut dire, celui qui aurait dû être le premier ministre de la France, dans la mesure où il devient très proche du dauphin, qui à l'époque devait on pense, succéder à Louis XIV. Et Fénelon, malgré cette carrière admirable, eh bien, décide de s'opposer. De s'opposer d'abord discrètement, puis de moins en moins discrètement, à l'absolutisme de Louis XIV, notamment sa fameuse lettre qui est très connue, qui est une critique de la volonté guerrière de Louis XIV, qu'il considère comme une volonté assez absurde eu égard aux circonstances de l'époque.
Il y a un contexte, c'est la guerre de Hollande.
C'est la guerre de Hollande qui est menée d'une manière... on peut se demander, en tout cas c'est la thèse Fénelon, c'est pas du tout celle... que Petit-Fils développe dans son Louis XIV, donc vous voyez là où c'est encore une différence, si vous voulez. Mais pour Fénelon, c'est une guerre absurde, c'est une guerre uniquement faite pour la gloire du monarque. Il considère que cette guerre est une guerre qui se montre désastreuse et qui sera à l'origine de notre, finalement, succession de défaites postérieures. Et puis surtout, ce qui va être le grand moment, on peut dire, de Fénelon, c'est quand il rédige avec le duc de Chevreuse les Tables de Chaulnes. C'est là le programme, si on peut dire, de contestation aristocratique du pouvoir absolu. Et ces Tables de Chaulnes sont rédigées au moment où, justement, le grand dauphin est mort. On pense que le duc de Bourgogne, son successeur, donc le nouveau dauphin, pourrait un jour succéder à Louis XIV. Et c'est le moment clé, si on d'espoir, d'un passage en douceur d'une monarchie absolue à une monarchie plus limité, plus aristocratique, donc qui donnerait un certain nombre de pouvoirs, soit aux États généraux, soit à d'autres instances, disons, régionales, ou en tout cas, j'ose pas dire le terme représentatif, parce qu'à l'époque, ça n'a pas beaucoup de sens, mais en tout cas, à des instances qui puissent discuter et se faire entendre par rapport à l'administration royale.
Nous sommes en 1711, donc c'est la mort du grand dauphin. Vous dites que Fénelon, en fait, invente les voies d'une liberté tempérée.
Oui, peut-être j'ai plutôt écrit une monarchie tempérée, parce que oui, une liberté aussi, on peut le dire d'une certaine façon, c'est-à-dire que le programme des États généraux tel que l'établit Fénelon, c'est en fait assez classique, c'est-à-dire que c'est le vieux projet de monarchie tempérée tel qu'il avait été développé au XVIe siècle, notamment par Claude Seyssel ou d'autres, c'est-à-dire quelque chose qui revienne sur la construction de l'absolutisme administratif. C'est ça surtout qui caractérise l'absolutisme louis-quatorzien, c'est le fait que les bureaux sont tout puissants. C'est pas tellement le roi, personne ne remet en cause son absolutisme. Le roi est bien sûr le souverain. Mais en revanche, ce qu'on conteste énormément, c'est le pouvoir des ministres. Les Louvois, les Le Tellier notamment, sont des personnages qui terrifient l'aristocratie traditionnelle. Et puis, conteste aussi beaucoup le pouvoir des bureaux, le pouvoir des intendants, le pouvoir de toute cette structure administrative qui fait que, notamment si on la compare avec l'Angleterre, parce qu'on n'arrive pas à comprendre si on prend pas d'exemple. Si on compare avec l'Angleterre, la France est un pays très centralisé où tout est pris à Paris ou dans les provinces, tout est pris chez l'intendant. Alors que dans l'Angleterre de l'époque, ce sont au contraire les puissances sociales qui conservent une grande part de leur pouvoir, et notamment en termes de régulation. C'est le juge de paix qui a un rôle très important sur le plan local en Angleterre, et souvent c'est le seigneur lui-même. Alors, ça, c'est bien parce que ça a donné la théorie du self-government. Il faut bien voir qu'il y a un aspect en revanche très négatif, c'est que l'Angleterre est un pays très aristocratique, parce que c'est le pouvoir local est attribué aux puissances sociales, donc à la gentry, ou aux Whigs, en tout cas. Je dis Whigs parce que c'est surtout eux qui ont fait la révolution de 88, mais en tout cas à tous les grands propriétaires. Mm. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, à partir de la centralisation monarchique, le pouvoir est beaucoup plus à l'intendant, qui lui n'est pas un homme représentant les propriétaires locaux, mais un homme représentant le roi, alors que en Angleterre, le vrai pouvoir de régulation locale appartient aux propriétaires locaux. Mmh. C'est une grande différence.
Il y a une exception française, visiblement, parce que vous écrivez que partout en Europe continentale, que ce soit en Autriche, en Pologne, en Russie, la noblesse renforce sa puissance.
Oui.
Du point de vue des idées, est-ce le moment où l'idée de liberté rejoint l'histoire où commencent à se développer toutes les idées concernant la liberté germanique telle qu'elle était conçue.
Alors, oui, bon, alors là, c'est deux points que vous soulignez. Il y a d'abord l'idée moderne, en effet, de liberté qui peut apparaître dans nos deux pays, c'est-à-dire dans l'Angleterre et dans la France. Pourquoi ? Parce que c'est nos deux pays qui rompent avec cette féodalisation, si on peut dire, de l'Europe depuis le Moyen-Âge. Mais ce qui se passe, c'est que la France et l'Angleterre la rompent de manière très différente. L'Angleterre la rompt, cette féodalisation, en abordant la modernité par le biais de la décentralisation, par le biais du pouvoir accordé aux puissances, disons, sociales, qui peuvent être soit les puissances nobiliaires, soit les puissances commerçantes. Nous, en France, on fait autrement, on rompt avec cette féodalisation par le biais administratif, par la monarchie centralisée. C'est une modernité, cette monarchie centralisée. Mais à l'inverse de la modernité anglaise, c'est une modernité administrative. C'est pas la modernité de la société civile, si on prend des expressions contemporaines.
Une modernité légiste également ?
Bien sûr, une modernité essentiellement centrée sur les travaux des légistes. C'est ce qui explique la puissance qu'ils vont attribuer au corps administratif.
Donc, on rejoint cette idée, cette modernité s'oppose à ces nobles qui, eux, font appel à l'histoire.
Voilà. Alors, eux s'opposent à cette modernité. Alors, c'est à cette modernité à la française. Ils vont, pour s'y opposer, restaurer un discours historique. C'est le discours germaniste que vous mentionniez, c'est-à-dire la référence au vieux passé mythique d'une monarchie qui aurait été la monarchie franque des origines. Je dis mythique parce qu'on verra comme eux la mythifient. Et ils en font une sorte de monarchie déjà pré-parlementaire. Mais ce qui est intéressant de souligner, en effet, c'est qu'ils utilisent quelque chose d'archaïque dans un combat qu'ils pensent à la fois rétrograde et en même temps moderne. C'est-à-dire qu'eux veulent se rapprocher de ce qui se passe en Angleterre sans pour autant en avoir les moyens, puisque la noblesse anglaise n'a rien à voir avec la noblesse française.
Alors que la noblesse française, elle, en appelle à la fameuse charte de 1215.
Oh, elle en appelle à plein de vieux monuments, si vous voulez. La révolution anglaise de 1688 a fait de la Magna Carta de 1214 la référence mythique. Tout le monde parle de la Magna Carta. Bon, alors qu'il s'agit en fait d'un accord féodal entre Jean sans Terre et ses barons, point final. En France, on exhibe aussi un certain nombre de textes. J'ai parlé notamment, mais c'est pas le seul, de l'édit de Piste. L'édit de Piste, qui est un vieil édit carolingien de 862 ou 864, qui est un capitulaire qui établit, bon, que sur le plan technique et juridique, il n'est pas intéressant en tant que tel, mais il est utilisé par cette noblesse germanique en prétendant affirmer, c'est la preuve que, dès l'origine, la loi est faite du consentement du peuple et de l'accord du roi, puisque c'est le texte de l'édit de Piste. Et cet élément-là va être brandi pendant tout le XVIIIe siècle, jusque quasiment à obtenir la convocation des États généraux en 1788, par un certain courant contestataire de la monarchie absolue, qui regroupe à la fois des nobles de cette réaction nobiliaire dont parle Petit-Fils, mais aussi un nombre très important d'opposants qui ne s'inscrivent pas dans la réaction nobiliaire, mais qui s'inscrivent dans la réaction germaniste, c'est-à-dire qui utilisent, comme Mably, qui est quand même très connu et très célèbre, et Mably est plutôt au contraire un des fer de lance du combat démocratique, mais qui se réfère à l'histoire française pour pouvoir remettre en cause la monarchie absolue.
Alors, nous sommes vraiment, on le voit, dans un débat très complexe, et d'autant plus complexe qu'il y a un autre phénomène qui est tout aussi intéressant, c'est la question religieuse. La monarchie est une monarchie de droit divin. Vous écrivez, plus on s'écarte du théologique, plus on s'intéresse à l'historique. Oui. Les nobles s'intéressent à l'historique et, logiquement, ils remettent en cause, non pas le pouvoir religieux du roi, mais sa dimension religieuse.
Oui, oui, on pourrait le dire. C'est-à-dire que, en effet, l'histoire, et ça va être très fort, très marquant avec Boulainvilliers, qui est le grand théoricien de cette doctrine historique, l'histoire là sert non pas à réaffirmer le pouvoir du roi, à le sanctifier, le magnifier, enfin à faire tout ce que les juristes vont essayer de faire dans leur production comme légiste du roi, mais au contraire, l'histoire va là être destinée à montrer et à glorifier le passé d'une nation. C'est-à-dire, c'est le premier discours national, paradoxalement, le discours germaniste. C'est-à-dire l'idée que, à l'origine, ce n'est pas la monarchie. À l'origine, c'est les guerriers francs, c'est-à-dire la nation franque qui se constitue et qui va obtenir des droits. Et le monarque n'étant, ce qui, sur ce point précis, est vrai en revanche, n'étant qu'un des guerriers élus parmi les autres au moment où il faut entrer dans le combat. C'est la fameuse élection sur le pavois, etc. Et donc ça, ça permet quoi ? Ça permet, dans le débat politique du XVIIIe siècle, de dire, bon, bah, écoutez, il y a eu une usurpation royale. Toute l'histoire de France, comme le dit Boulainvilliers, n'est qu'une série, une longue série d'usurpations royales.
Depuis le vase de Soissons.
Depuis le vase de Soissons, voilà.
Donc,
peut-être qu'il faut expliquer pourquoi on utilise le mot...
Le mot de vase, bah, je vous en prie.
Non, mais c'est parce que le vase de Soissons a servi, en effet, à deux interprétations très complémentaires et intéressantes. C'est premièrement, quand on, la première partie du vase de Soissons, c'est-à-dire l'opposition du guerrier qui refuse que Clovis prenne un vase que lui-même avait obtenu comme butin lors de la victoire contre Syagrius.
Au nom d'un droit.
Au nom d'un droit des guerriers d'origine. Nous sommes tous égaux. Le roi n'est qu'un guerrier parmi les autres. Donc ça, c'est la première affirmation du droit d'origine, si on peut dire, du droit historique. Et puis, la deuxième partie de l'exemple du vase de Soissons, eh bien, c'est quand Clovis regarde, enfin, quelques mois plus tard, passe en revue ses guerriers et finalement fracasse le crâne de celui qui avait refusé de lui donner le vase de Soissons et qui, quand il lui dit... Souviens-toi du vase de Soissons. Eh bien, pour Boulainvilliers, qui prend cet exemple-là et qui le met en exergue de sa démonstration, c'est la preuve, c'est la première manifestation de cet absolutisme royal.
Alors, je reviens à la chronologie. Nous sommes, j'allais dire, entre la période 1712-1718. Vous présentez l'échec d'une restauration d'une monarchie à la Fénelon, puisque l'époque finalement s'y prête. Louis XIV meurt.
Enfin, en 1715.
Voilà, en 1715. Louis XV est trop petit pour régner. Et il y a un moment qui peut être le moment des grands. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ?
C'est l'époque de ce qu'on a appelé la régence libérale, c'est-à-dire le moment où Louis XIV meurt, et à ce moment-là, le petit groupe réuni autour de Saint-Simon tente, le petit groupe des ducs, tente eh bien, de mettre en place cette monarchie rêvée, cette monarchie, entre guillemets, limitée. Et ça ne marche pas. Alors là, c'est pour plusieurs raisons. Probablement, la principale, c'est, tient à la personnalité de ses acteurs. Le duc d'Orléans, le régent, n'a aucune envie, en vérité, de voir son pouvoir remis en cause. Il a accepté de mettre fin à l'administration et à la bureaucratie Louis XIVienne et donc de créer ce qu'on a appelé la police inaudite à des fins purement intéressées, c'est-à-dire qu'il voulait avoir les grands avec lui, mais au fond, il n'était pas prêt à partager son pouvoir. Deuxièmement, la personnalité de ces grands elle-même pose problème. Quand vous examinez l'action de Saint-Simon, Saint-Simon est un remarquable et mémorialiste, comme chacun sait, politiquement parlant, il est beaucoup plus lucide qu'on ne l'imagine, ou que la Vulgate ne l'a dit, mais en même temps, ce n'est pas Fénelon. Il est obsédé par ces questions de rang, d'étiquette, il fait des pataquès improbables lorsqu'il y a la question du bonnet, la question de la préséance du premier président au Parlement. Bref, il est obsédé par des détails. Donc évidemment, il se perd et il ne permet pas à son projet de réussir pleinement. Et puis enfin, et là aussi c'est un élément fondamental, est-ce que le contexte social, politique et social permettait ce genre de réaction nobiliaire, en tout cas permettait de recréer, la police inaudite a pris comme exemple les monarchies espagnoles et autrichiennes. Or, dans ces monarchies-là, la noblesse est toute puissante, il n'y a quasiment pas de bourgeoisie. En France, si vous regardez la situation en 1715, la richesse de la bourgeoisie est telle que il y a aucune raison qu'elle se laisse damer le pion par la noblesse. Donc, il n'y a même pas les conditions sociales de cette réussite.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Jacques de Saint-Victor qui évoque pour nous les racines de la liberté, le débat français oublié 1689-1789, un livre paru aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons dans un instant.
Thank you.
Je reçois Jacques de Saint-Victor, auteur du livre « Les racines de la liberté, le débat français oublié », un livre paru chez Perrin, qui parle de cette opposition des grands au pouvoir absolu. Alors, nous avons laissé la régence avant cette pause et nous entrons dans le règne de Louis XV. Et j'allais dire, le règne de Louis XV est marqué par cette séance, la fameuse séance de la flagellation, qui est l'incarnation de l'absolutisme. Est-ce que cette séance est une séance, Jacques de Saint-Victor, hors du temps, ou au contraire, pensez-vous que Louis XV aurait pu, un peu comme le régent quelques années auparavant, intégrer cette opposition des grands et les faire participer au pouvoir?
Si vous me permettez, je formulerai autrement, mais ça reviendra à répondre à votre question. Le règne de Louis XV est un règne central, fondamental pour la question, parce que on voit là apparaître toutes les tendances possibles qui vont, disons, structurer le débat jusqu'au moment de la Révolution. Et dans sa tentative de 1766, le moment de la fameuse séance de la flagellation, lorsque Louis XV humilie donc sciemment le Parlement pour lui faire comprendre que ça suffit son opposition sectaire à ses réformes, eh bien là, c'est la manifestation de ce qu'on appellerait, alors on n'a jamais voulu l'appliquer pour la France, bien sûr, parce que bon, il y a d'autres éléments qui empêchent d'utiliser cette parole, mais c'est une forme d'expression du despotisme éclairé. C'est-à-dire que Louis XV essaye de dire « ça suffit, je veux faire des réformes, vous arrêtez, vous les privilégiés du Parlement, de m'empêcher de les faire ». Donc il faut bien comprendre que l'opposition des parlementaires n'est pas une opposition aussi simple qu'on ne l'imagine. Elle est pleine d'arrière-pensée et pleine d'arrière-pensée…
Elle est réactionnaire.
Oui, en partie réactionnaire, bien sûr. Elle est en partie réactionnaire. Et en même temps, c'est pourtant, grâce à ce discours parlementaire, que, bon, en fait, surtout d'abord grâce au discours de Montesquieu, parce que les parlements ne font que reprendre ce que Montesquieu a magnifiquement dit, eh bien, c'est aussi grâce à ce discours-là que va s'élaborer la pré-révolution. Donc, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Mais, en tout cas, sur le plan technique, bien sûr que c'est un projet réactionnaire que celui des parlements. Ils veulent respecter, au fond, l'organisation d'Ancien Régime sur le plan social. Alors que la monarchie est en train de vouloir, comme le font le despotisme éclairé de Léopold en Toscane, ou comme un peu plus tard, ou le tente Frédéric II en Prusse, ou comme le fait Pombal au Portugal, etc. Bref, ils tentent de réformer radicalement la société parce qu'ils comprennent, et l'exemple anglais là-dessus leur sert toujours de modèle, ils comprennent que on est entré dans un nouveau type de rapport de force. C'est l'économique qui déjà à l'époque prime. Et cette question fondamentale du commerce, à l'époque on ne parle pas de l'économie, on dit le doux commerce. Le doux commerce, c'est déjà Montesquieu qui l'avait très bien vu, mais tous les Anglais l'avaient bien saisi déjà, c'est la clé pour le succès des nations dans leur esprit. Donc il faut essayer de tout mettre en place pour trouver les moyens d'accentuer, d'accélérer ce commerce. D'où par exemple toutes les réformes que tente Louis XV de libérer le marché du blé.
Parce que
cette question, elle est centrale dans la capacité de moderniser la France. Donc, les bureaux de Louis XV pensent que c'est nécessaire pour moderniser et les parlements, au contraire, bloquent tout. Donc, à ce moment-là, évidemment, Louis XV et puis surtout son successeur Louis XVI s'énervent contre cette résistance parlementaire et ils tentent de réaffirmer justement leur toute-puissance. Alors, je reviens donc à votre question. Ce n'est donc pas véritablement une instance représentative qui s'oppose à la puissance du roi. C'est-à-dire que les parlements, ce n'est pas du tout des parlements au sens moderne. C'est des cours de justice d'Ancien Régime constitués uniquement de magistrats qui ont acheté leurs charges.
Qui enregistraient les lois.
Et qui enregistraient les lois. Alors, elles avaient un pouvoir, en effet, comme par exemple aujourd'hui, presque une cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, en effet, vérifier s'ils respectaient les lois fondamentales. Mais dans les réformes techniques, normalement, ce n'était pas au Parlement de s'y opposer. Donc, d'une certaine façon, le roi savait qu'en manifestant sa majesté en puissance, il était dans son bon droit. Voilà. Les formes plus modernes de résistance, on les voit plutôt dans les travaux de l'époque, c'est-à-dire dans les travaux des philosophes, dans les travaux même des écrivains, c'est-à-dire dans ceux qui essayent de dire « mais il faut réunir la nation pour s'opposer à ces réformes ». Et c'est dans cette question de la réunion de la nation que va s'inscrire le courant qui va aboutir
à la Révolution française.
Révolution, oui.
Quelle place, avant de revenir à cette idée de nation qui est très très importante, puisqu'il y aura plus tard la notion de séparation entre le roi et la nation, alors que normalement le roi...
Dès la Régence, en
voilà.
Fait. Elle commence dès la Régence.
Dès la Régence, oui, il y a une séparation. Alors, je voudrais tout de même m'arrêter sur Montesquieu, hein, parce que vous vous arrêtez personnellement dans votre ouvrage très longuement sur l'œuvre de Montesquieu. Comment le situer? Parce qu'il n'a pas la volonté forcément de restaurer ce qu'on appellerait le gouvernement gothique, hein, mais est-ce que c'est un précurseur de la théorie des corps intermédiaires telle que la conçoit plus tard Tocqueville?
Ah oui, oh bah, si on le prend par rapport à Tocqueville, oui, bien sûr. Montesquieu a influencé considérablement Tocqueville. Ce qui est intéressant chez Montesquieu, enfin, moi j'ai étudié et j'ai insisté sur un aspect que on connaît moins de Montesquieu, c'est l'importance justement qu'il accorde à l'histoire justement germanique comme une sorte de contre-modèle final, puisque ses développements sont à la fin de l'esprit des lois, comme une sorte de contre-modèle final à tout son développement en faveur de la liberté. C'est-à-dire qu'il voit dans le gouvernement gothique une forme historique de la liberté. Mais Montesquieu ne doit pas être regardé comme un privilégié uniquement avide de renforcer les corps intermédiaires au sens des corps des privilégiés. Montesquieu est un esprit moderne qui a complètement saisi, lorsqu'il est allé en Angleterre, ce qui faisait la force des modernes, c'est-à-dire le fait qu'ils se soucient d'abord et avant tout de leurs intérêts privés. Donc, c'est le doux commerce qui est central dans la théorie de la liberté, mais il faut pouvoir mettre en place une organisation institutionnelle qui permette à chacun d'avoir la possibilité d'exercer ses activités privées. D'où l'importance qu'il accorde à la constitution anglaise, la constitution donc libre, comme il dit. Et de ce fait, il y a chez Montesquieu une constance, c'est-à-dire une tension entre la modernité qu'il voit à travers ce prisme anglais et l'idéal qui reste un idéal des anciens de participation politique. Ça nous renvoie à ce que nous disions au début de cette émission. Donc, chez Montesquieu, c'est cette tension-là, ne pas tout abandonner à uniquement la jouissance privée, prendre bien conscience que c'est très important aussi de préserver les éléments de la participation politique, de la vie de la cité. Sinon, nous allons tous sombrer. Il le dit d'ailleurs, hein, il est très critique, non pas sur la théorie anglaise, mais sur la pratique, sur ce qu'il voit en réalité en Angleterre,
oui.
Cette frénésie de la jouissance privée, cette avidité commerciale, cette avidité pour tout ce qui relève des biens,
oui.
Voilà,
oui.
Des biens, etc. Donc ça, c'est un élément qu'on souligne peu, mais il y a un regard très critique de Montesquieu vis-à-vis de la modernité telle que...
Il connaît mieux que Voltaire sa corruption qui s'étale dans tous les journaux et touche aussi bien le Premier ministre Walpole que les membres de l'élite comme
exemple,
le duc de Marlborough.
Voltaire est un idolâtre de Mandeville. Jamais Montesquieu n'aurait pensé, comme Mandeville, que la somme des vices privés fait la vertu publique. Or, ça, c'est vraiment la théorie des modernes, la théorie de Mandeville, de Voltaire et de tous les successeurs économistes avec Adam Smith et autres.
Alors bon, le professeur que vous êtes me reprochera sûrement de passer de la chronologie à la thématique, mais je reviens à la chronologie parce que le temps avance. 1788 est l'apogée de ce que vous appelez donc le républicanisme classique. Comment le caractériser?
Ben, ce républicanisme classique, c'est justement ce moment, ce courant, pardon, qui veut faire de la participation politique, de la participation civique, la clé dans la notion de la liberté. Hein. Donc, c'est le courant, si on pourrait dire, ancien. C'est le modèle de du républicanisme classique. C'est quoi? Eh ben, c'est Sparte et la Rome républicaine. Et évidemment, ce qui est intéressant de souligner, parce que là, je crois que ça avait été assez peu fait sur la question française, c'est de montrer à quel point cet idéal de républicanisme civique, il est fondamental, il est central dans le débat de la veille de la Révolution, dans le débat de la pré-Révolution. Et il s'oppose à quoi, ce républicanisme civique? Eh bien, il s'oppose à deux courants. D'abord, il s'oppose à l'absolutisme, ça c'est une chose, évidemment, mais il s'oppose aussi au libéralisme des modernes, au libéralisme des physiocrates, par exemple, au libéralisme de ceux qui veulent laisser faire, laisser passer, qui veulent l'apologie du marché. Pourquoi il s'oppose à ce libéralisme-là? Eh bien, il s'oppose à ce libéralisme-là en disant: n'abandonnez pas l'être privé uniquement au règne du marché. Il faut, et avant tout, concevoir la liberté dans le cadre de la cité, dans le cadre de la République, de la chose publique. Et par conséquent, on voit très bien là se jouer ce qui va être les oppositions futures de la Révolution, c'est-à-dire d'un côté les libéraux modérés qui vont réformer au départ, sous la Constituante, le pays avec une inspiration, disons, physiocratique et aussi une inspiration d'économie classique style Adam Smith, à ceux qui vont venir ensuite, c'est-à-dire les Jacobins, ceux du Comité de salut public, qui eux vont se réclamer de la vertu, la fameuse vertu dont Rousseau nous avait tant parlé, en se réclamant lui aussi du modèle des anciens, et qui vont eh bien, créer ce couvent terrible qu'on connaîtra à l'époque de la terreur. Et la terreur se fait au nom du salut public, mais aussi au nom de la vertu, et de cette vertu républicaine qu'on va porter au pinacle. Alors, voyez, c'est ça l'ambiguïté de la pré-révolution, c'est que ceux qui poussent en faveur de ce républicanisme classique, on peut très bien les comprendre, parce que justement, ils ont cette préoccupation civique. Le problème, c'est que quand on va voir leurs réalisations à partir de 1792, elles seront beaucoup plus terrifiantes, parce que on va constituer, comme l'avait très bien dit ensuite Benjamin Constant dans sa fameuse conférence sur la liberté des anciens et des modernes, on va essayer de constituer une Sparte moderne à une époque où, de toute façon, la plupart des gens n'ont plus du tout, comme les Spartiates, l'envie de participer à la vie politique, mais uniquement l'envie de jouir de leur petite jouissance privée. Donc, ce qui est l'erreur des Jacobins, souligne Constant, c'est de ne pas avoir pris conscience de l'évolution des mentalités. On n'est plus, c'est peut-être dommage, mais on n'est plus du temps des anciens où les gens sont centrés sur la vie de la cité. Les gens sont au contraire, dans les modernes, centrés sur leurs intérêts privés. Ça, c'est l'apport premier de Montesquieu, puis de tous ses successeurs sur ce plan précis.
Jacques de Saint-Victor, nous nous retrouvons après cette toute dernière pause.
Il a eu pour ami et modèle Pablo Picasso et Jean Cocteau. Il s'est passionné pour la corrida, les nus, les gitans et les étangs. Il est le premier photographe à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Lucien Clergue est venu dans notre studio pour retracer son parcours dans une émission en habit vert. Cette émission est disponible sur Canal Académie par le moteur de recherche en tapant Clergue ou en passant par la liste des académiciens.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée au livre « Les racines de la liberté », un livre écrit par Jacques de Saint-Victor, professeur et journaliste, « Les racines de la liberté, le débat français oublié » paru aux éditions Perrin. Donc nous avons vu, avant cette dernière pause, l'apogée du républicanisme, le républicanisme classique. Est-ce que Louis XVI, finalement, était peut-être plus enclin à recevoir le discours, parce que on a beaucoup parlé de la séance de la flagellation avec Louis XV. Louis XVI est beaucoup plus nourri aux idées modernes.
Oui, il est plus nourri aux idées modernes, mais pas aux idées justement du républicanisme classique, qui sont au contraire des idées plutôt antiques, si on veut prendre des référents. Louis XVI reprend d'une certaine manière le réformisme de son grand-père. Quand il nomme Turgot, quand Turgot fait ses réformes de 1776, quand il se heurte à nouveau au Parlement justement à cause de la question des corporations et que ce refus du Parlement va entraîner la chute de Turgot quand même. Et puis quand Louis XVI, à nouveau en 1787, tente la réforme Calonne, la subvention territoriale, c'est-à-dire l'impôt unique, etc., ce sont des réformes extrêmement modernes, mais ce sont des réformes qui s'inscrivent plutôt dans ce qu'on pourrait appeler l'esprit de la réforme physiocratique ou libérale, en tout cas, une réforme qui est en vue de la modernisation, mais pas au profit, comme chez les républicanistes classiques, pas au profit d'une revivification de la vie de la cité, au profit plutôt de la modernité économique.
Sieyès, nous le disions en début d'émission, Sieyès, lui, radicalise en fait le débat en le portant sur la question du tiers-État. Oui. Mais on le disait également tout à l'heure, nous avons une coupure entre la nation et le roi. Donc, il y a en fait une triple coupure. Il y a une coupure entre la nation et le roi, et il y a une coupure entre le tiers-État et le reste des ordres privilégiés.
Oui, mais Sieyès, il apparaît dans un contexte très particulier. Là, il faut peut-être revenir à l'histoire stricto sensu. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Louis XVI tente, en 1787, cette réforme de Calonne, il espère obtenir l'appui des privilégiés, ce qui paraît d'ailleurs assez inconcevable. Comment imaginer que les privilégiés à qui on va demander de payer des impôts alors qu'ils sur la subvention territoriale, alors qu'ils n'en payaient pas sur ce cas précis, vont lui accorder cette possibilité? Il faudrait justement faire appel au sens civique des anciens, qui plus personne n'a vraiment. Donc les privilégiés s'opposent à la réforme de 1787, et finalement, ça va entraîner, je passe les détails, l'après-révolution, c'est-à-dire que tout le monde va s'opposer au pouvoir du roi, ceux qui sont favorables aux privilégiés, ceux qui au contraire sont favorables, disons, à des pouvoirs élargis de la nation, donc en profit du tiers-état, etc. Bref, tout ce monde-là se trouve coalisé contre la monarchie, et cette pré-révolution entraîne un tel blocage que le roi se sent obligé de convoquer les États généraux. Ça, c'est en été 1788. Il promet qu'il va réunir les États généraux. Mais dès que cette promesse est obtenue, alors la question se pose, mais comment va-t-on réunir les États généraux ? Est-ce qu'on va les réunir comme en 1614 ? Parce que c'est la dernière réunion des États généraux, date de 1614, c'est-à-dire il y a belle lurette, avant que la monarchie ne devienne justement absolue. Et là, on voit bien l'erreur, en fait, de cette monarchie absolue qui, au fond, n'a pas su créer les instances qui permettaient un dialogue entre la société et le pouvoir. Et si on les réunit comme en 1614, ça veut dire que la noblesse, le clergé, sont majoritaires. C'est-à-dire que les privilégiés sont majoritaires par rapport aux tiers d'État. Et le courant, disons, favorable à une certaine égalité, va au contraire demander qu'on réunisse les États généraux selon des formes nouvelles, notamment en accordant un doublement du tiers, pour qu'il y ait au moins autant de députés du tiers que de députés des deux ordres privilégiés, et surtout qu'on vote non plus par ordre, c'est-à-dire un vote à la noblesse, un vote au clergé et un vote au tiers, mais qu'on vote par tête, c'est-à-dire que justement on puisse espérer, pour ceux qui se présentent comme les progressistes, qu'on puisse espérer obtenir non seulement tous les voix du tiers, mais une partie de voix de la noblesse libérale et une partie des voix du bas clergé. Bref, c'est à la faveur de cette radicale opposition entre partisans de 1614 et partisans des États généraux modernes que apparaît l'abbé Sieyès. Et l'abbé Sieyès, qu'est-ce qu'il propose dans Qu'est-ce que le tiers d'État et avant dans son essai sur les privilèges, eh bien, c'est justement de balayer tout ce vieux passé dont on se réclamait pour s'opposer à la monarchie, de faire table rase de cette histoire française et de recréer tout entièrement à partir de bases nouvelles, géométriques, où là, véritablement, comme il espérait être un ingénieur ès constitution, Sieyès pourrait véritablement créer des institutions parfaites.
Donc, c'est la naissance d'une utopie ?
Oui, d'une certaine façon, en effet, parce qu'on voit bien que toutes les institutions que Sieyès a voulu créer sur le plan constitutionnel, y compris la constitution de l'an 8, quand on l'imagine sur le plan de l'organisation des pouvoirs publics les plus élevés, ça ne va pas durer bien longtemps. Bon, l'Empire, certes, durera longtemps, mais ce n'est pas exactement ce que voulait Sieyès. Donc, Sieyès constitue des machines à gaz, mais néanmoins, en effet, il parvient à radicaliser le débat, à renvoyer, comme il dit, les familles nobles qui prétendent descendre des Germains, eh bien, il leur dit, alors, retournez dans vos forêts de Germanie. Et le tiers-État, qui aurait été soi-disant descendant des Gaulois, sera conquérant à son tour. C'est ce que nous dit Sieyès. Donc, il introduit la guerre sociale. Alors que, avant lui, on était plutôt dans une guerre politique entre le roi et la nation. Et là, il introduit au sein même des forces qui s'opposaient à la monarchie absolue une césure entre d'un côté ceux qu'on va désigner désormais vraiment sur le mot de privilégiés et de l'autre ceux qu'on va considérer comme étant les forces du tiers-État, les forces qui vont être les prémices des forces révolutionnaires.
Est-ce que c'est un point de non-retour dans la mesure où, finalement, est-ce qu'on retrouve, après la Révolution française, le républicanisme classique tel que vous l'avez présenté en 1788? Parce que, Napoléon crée sa noblesse, puis après, il y a le retour de la monarchie.
Oui, mais la monarchie qui retourne, c'est une monarchie vraiment parlementaire. Parlementaire, je ne prends pas le terme au sens juridique, mais disons avec un parlement. Mais surtout avec une inspiration qui est déjà une inspiration totalement moderne. C'est-à-dire qu'on ne retourne pas au républicanisme classique. C'est fini, ça.
Donc, nous sommes bien dans un point de non-retour.
Oui, non, un point de retour, mais double par rapport aux Anglais. Les Anglais, eux, ont fait aussi un point de non-retour par rapport au républicanisme, puisque en 1640, tout est balayé en ce qui concerne le républicanisme. Mais les Anglais, en revanche, ne font jamais une rupture radicale avec leur passé. Il n'y a pas cette rupture de 1789 que nous allons faire. Pourquoi ? Parce qu'en 1688, intelligemment, les Whigs disent qu'ils inscrivent leur révolution dans l'histoire anglaise. Ils rétablissent les droits inaliénables du peuple anglais, comme ils le disent. Alors qu'en 1789, nous avons Rabaut Saint-Étienne, qui ne fait que répéter ce que dit Sieyès, et qui dit « l'histoire n'est pas notre code, donc on va faire table rase de tout ». Et évidemment, forcément, en se coupant complètement du passé, on prend le risque de voir des passés qui ne passent pas se répéter assez fréquemment.
Alors, Jacques de Saint-Victor, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. Comment percevoir, vous êtes observateur donc de la vie, comme tout le monde, de la vie politique, de la vie publique. Comment percevoir l'idée de liberté? Vous insistez en début d'ouvrage sur la dimension morale que la liberté suppose, l'engagement, la participation à la vie commune. Aujourd'hui, on a l'impression de voir que et uniquement la dimension utilitariste et j'allais dire égoïste de la liberté.
Oui, plutôt égoïste. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, parce que c'est une question très, très difficile et très, très, très ample. C'est-à-dire
Je rajouterais simplement, nous le disions tout à l'heure, et vous le dites dans votre ouvrage, plus on s'écarte du théologique, plus on s'intéresse à l'historique. Aujourd'hui, on a l'impression que ni l'historique, ni le théologique intéressent.
Non, mais bien entendu. Non, mais ça, c'est vrai, c'est le vrai défi. C'est pour ça que ça pouvait être intéressant de restaurer, mais il faut le faire avec prudence, ce vieux courant républicaniste, c'est-à-dire de faire comprendre que la liberté, ce n'est pas simplement la... Alors, ce qu'on disait jadis, mais qui paraît un peu désuet, ce n'est pas uniquement la licence, ou pour reprendre Stuart Mill, il faut comprendre que la liberté a elle-même ses propres limites. Par exemple, je ne suis pas libre d'aliéner ma liberté. Je ne suis pas libre de devenir esclave, car là, c'est une contrainte extrême et qui crée une contradiction. Alors, pour être très concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, à ne rechercher que sa propre liberté individuelle d'une manière frénétique, y compris en n'ayant plus aucun intérêt pour la chose publique, en étant uniquement avide de savoir si on va avoir, qui pour le club de foot, qui pour sa crème de beauté, qui pour tout ce que Tocqueville désignait sur le mot bien-être. Cette avidité individualiste vers le bien-être nous coupe de plus en plus vers la préoccupation qui reste centrale, c'est qu'il n'y a pas de liberté si nous ne prenons pas conscience qu'elle n'est pas une donnée, elle est aussi toujours une conquête, et notamment une conquête par le biais d'une certaine participation civique, ou en tout cas une certaine forme d'intérêt pour la chose civique. Nous n'aurons plus de liberté le jour où nous ne serons plus occupés que de nous-mêmes, et que nous aurons laissé, c'est d'ailleurs ce que disait déjà Constant, au pouvoir qui ne demande pas mieux toutes les capacités de s'intéresser aux choses public. Et en fait, d'une certaine façon, je finirai par ce paradoxe peut-être, c'est que le pouvoir a tout à fait intérêt à nous pousser vers cet individualisme frénétique et consumériste, parce que comme ça, on se désintéresse de choses qui eux, disons, nos dirigeants les intéressent. Alors, c'est pas du tout un discours anti-dirigeant en tant que tel, mais c'est un discours en faveur de l'importance que le civisme, que l'engagement, le souci civique pour l'existence même de la liberté, de la liberté moderne, et pas justement celle des républicanistes, y compris de ceux qui aujourd'hui voudraient nous faire croire qu'on puisse vivre dans la participation civique permanente, le tirage au sort, les jurys citoyens et autres bigvesés qui paraissent justement assez inadaptés à notre vie contemporaine.
Eh bien, merci Jacques de Saint-Victor. Je vois que le débat ne se limite pas simplement, le débat historique autour de la liberté, ne se limite pas seulement à la lettre de Guy Môquet. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les racines de la liberté, le débat français oublié, 1689-1789, un livre paru aux éditions Perrin. Merci, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.